bien la destination qui m'a le plus plu et qui était la plus extraordinaire, c'est quand je suis partie en Australie avec quelques journalistes et agents de voyage. Et ça m'a vraiment permis de découvrir un continent qui fait rêver et de pouvoir découvrir l'Australie aussi dans des super conditions, parce que c'est toujours le cas dans les voyages de presse.
Vous écoutez L'Avenir Rencontre. Bienvenue sur le podcast du journal L'Avenir, qui part à la rencontre de gens ordinaires, à l'expérience surprenante ou étonnante. Des personnes comme vous et moi qui racontent leur passion, leur boulot, un bout de vie. Je suis Corinne Marlière et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Laurence Sanon. Elle est consultante en communication et attachée de presse. Cette presque quinca a bourlingué dans plusieurs agences de com avant de s'installer comme indépendante. Son kiff, c'est le tourisme et le bon vin. Alors elle s'est trouvée des clients qui lui confient la promotion d'une région ou de quelques grands crus. On l'a croisée sur les pistes de Val Gardena, dans les Dolomites, une région du nord de l'Italie où elle a emmené quelques journalistes. Elle va nous raconter les coulisses d'un voyage de presse et ce qui fait le piment de son métier.
Mon nom est Laurence Sanon, j'ai 49 ans, je suis mariée depuis 20 ans, j'ai deux enfants, des ados, 14 et 17 ans. Je suis consultante en relations publiques donc depuis 27 ans, je fais des études journalisme et communication à l'ULB et j'ai eu la chance de directement faire un stage dans le domaine des relations publiques, de la communication et d'avoir toujours travaillé dans mon domaine. Et actuellement, donc je suis toujours consultante en communication, mais à titre d'indépendante depuis 7 ans maintenant. Il y a des clients dans le secteur du tourisme, des offices du tourisme comme Tourism Island. Donc là, je m'occupe de la promotion de l'Irlande auprès du grand public, de donner envie aux gens de visiter l'Irlande et de leur montrer vraiment tous les atouts de l'île. Donc je travaille pour d'autres clients encore dans le secteur du tourisme, pour la station de ski de Val Gardena dans les Dolomites, où on est pour le moment en voyage de presse. J'ai d'autres clients encore dans le secteur de la gastronomie, que ça peut être des marques belges, des restaurants. Je travaille pour des hôtels également, différents produits, des bières belges. Et je travaille aussi pour les vins de Bordeaux, ce qui est très agréable comme client également.
Alors, tu l'as dit, on se trouve dans les Dolomites, là, en voyage de presse, pour faire découvrir la région aux journalistes. Quelle a été la genèse de ce voyage ici à Val Gardena? Pourquoi? Comment est-ce que tout ça se met en place? Pour qui? À qui s'adresse-t-il?
C'est un voyage de presse international. Donc, moi, je travaille pour la station de ski de Val Gardena depuis peu, en collaboration avec une agence hollandaise, donc qui travaille pour la station de ski depuis 8 ans. Eux font la promotion de la destination auprès des Hollandais depuis 8 ans. Et ils ont un petit peu touché la presse flamande. Parce que c'est vrai que comme ici, on parle italien et aussi allemand. C'est vrai que les néerlandophones se sentent peut-être un peu plus proches de cette culture et les francophones partent encore très souvent plutôt en France pour skier. Et donc là, la station de Val Gardena s'est dit que c'était quand même intéressant d'essayer de toucher un autre public et de montrer vraiment tous les atouts de la région, des Dolomites, du Sud Tyrol. Parce que c'est vraiment pas du tout connu côté francophone en Belgique. Donc ça, c'est vraiment ma mission, via des voyages de presse, via des communiqués de presse, des interviews, de montrer quel est tout le potentiel, tout l'attrait de Val Gardena pour des Belges qui aiment skier, qui aiment bien manger, qui aiment profiter de la Dolce Vita. C'est un petit peu le ski à l'italienne avec l'organisation allemande. Donc il y a vraiment plein d'atouts ici à Val Gardena.
Comment est-ce qu'on met en place ce genre de voyage? Comment ça s'organise?
Bon, on regarde d'abord au niveau des dates. Donc, en général, on part hors vacances scolaires, évidemment. On essaye de voir aussi un petit peu par rapport aux agendas des journalistes quand ça peut convenir à une majorité de personnes. Ça s'organise en collaboration avec l'Office du tourisme. Donc, eux, évidemment, connaissent leur station, les atouts à mettre en avant. Donc, c'est une discussion entre le client et moi, l'agence, pour voir quels sont les différents éléments qu'on va mettre dans le programme. Donc évidemment, il y a toujours la découverte ici, comme c'est une station de ski, certaines des plus belles pistes, de faire découvrir le domaine, son histoire, aussi de faire découvrir d'autres atouts de la station, c'est-à-dire tous les petits restaurants d'altitude qui sont tenus par des familles. Donc c'est tous des ingrédients qu'on veut mettre dans le voyage, pour que les journalistes aient vraiment un panorama le plus complet possible de la destination et puissent vraiment sentir cette destination. Donc ça s'organise comme ça. En général, ça dépend des clients. Soit on organise les voyages coup par coup, soit quand c'est un office du tourisme où il y a plusieurs voyages par an. Donc là, on décide 5-6 voyages qu'on répartit sur l'année. Et donc là, ça permet vraiment d'anticiper. Ici, pour Val Gardena, pour la presse belge, il y a un voyage en hiver et un voyage d'été. Et je dirais que globalement, on travaille 2-3 mois d'avance. On essaye d'inviter les journalistes à temps, puisqu'on sait qu'ils ont des agendas chargés, beaucoup de propositions de voyage.
Ce genre de voyage, c'est un peu une opération séduction, évidemment, pour les journalistes. Qu'est-ce qui séduit les journalistes ? Est-ce qu'il faut beaucoup d'expérience pour se rendre compte de ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas, justement ?
Je crois que ça dépend vraiment des journalistes, des différents médias qu'on invite. Chaque journaliste est différent, a son histoire, son expérience de voyage, ses goûts. Donc c'est toujours difficile aussi de prévoir un voyage qui plaise à tout le monde. Donc on essaye de faire des groupes qui se ressemblent. Bon là ici on va faire tout le tour d'un massif montagneux sur une journée. Donc il faut quand même une certaine maîtrise du ski. Donc ça c'est vraiment, c'était un critère, mais je crois que dans une opération séduction, on essaye de mettre un maximum d'ingrédients qui peuvent vraiment illustrer en quoi la destination, ce qu'elle a d'intéressant, ce qu'elle a de sympathique et qui peut plaire. Donc c'est vraiment faire vivre un maximum d'expériences, comme si on était un tourisme lambda, mais en vivant des choses quand même un peu plus exceptionnelles, en faisant découvrir quelques coulisses et en donnant quelques scoops. Donc je crois que ce qu'on aime présenter, c'est vraiment les gens qui vivent dans la région, qui peuvent partager leur expérience, leur métier, parler de leur région avec passion. Donc c'est vraiment vivre des expériences, faire des rencontres, vraiment découvrir différentes facettes de la destination et d'essayer de montrer ici en 2 jours un maximum de choses et que ce soit un programme bien construit, bien organisé, que ce soit pas le marathon ou qu'il y ait des ratés dans le programme, parce que ça c'est aussi quelque chose auquel on doit veiller, essayer vraiment de faire un programme qui se tienne le mieux possible et de gérer tout ça.
Alors comment est-ce qu'un office du tourisme ou un client qui a demandé à ce qu'on organise un voyage de presse, comment est-ce qu'il réagit lorsqu'un journaliste n'écrit pas que du bien sur son voyage, sur l'endroit, pour diverses raisons ? Quelles sont les réactions ?
Mais je crois que les réactions en général sont plutôt positives. Ça dépend aussi des critiques. Je crois qu'un journaliste qui vient en tout cas en voyage de presse, quelque part s'engage à écrire. Donc là, c'est vrai que le client souhaite quand même avoir un résultat pour son investissement, que ce soit effectivement question budgétaire, mais aussi en temps, en organisation. C'est vraiment un investissement de personnes aussi sur place, d'accueil, d'hôtel. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui participent à l'accueil pour que tout se passe bien. Donc c'est vrai que s'il y a pas un retour après, c'est une déception, parce que pour eux c'est aussi une fierté de voir que leur région est promotionnée. Maintenant, s'il y a des éléments négatifs, je crois, enfin, ils réagissent bien parce qu'en fait, pour eux, c'est un enseignement et c'est aussi voir comment peut-être un client d'un autre pays, comment il perçoit différentes choses, que on vient de cultures différentes, parfois d'expériences de montagne aussi différentes. Il y a peut-être des pays où ils ont plus d'expérience en ski, d'autres moins. Ou voilà, il y a des nouveaux marchés qui arrivent aussi. Il y a de plus en plus de Russes qui viennent. Donc voilà, je crois que c'est aussi un enseignement et que globalement ils sont pas fâchés. Je crois que c'est un peu le jeu aussi avec les blogs et c'est ça qui fait que c'est un témoignage authentique. C'est vraiment avec l'esprit critique du journaliste. Donc c'est moi aussi qui dois faire passer ce message au client que il arrive qu'il y ait des choses qui soient moins appréciées par un journaliste. Et je crois que c'est l'honnêteté du métier. Maintenant, quelqu'un qui est, je dirais, mauvaise patte et qui fait vraiment un très mauvais article de A à Z sans relever n'importe quel point positif. Donc là, il y a vraiment un souci. Donc il y aura une réaction de ma part, en tout cas une discussion avec le journaliste et avec le client et de voir un peu plus profondément ce qui s'est passé. Donc bon, là, c'est justement dans l'encadrement pendant le voyage où on essaye que ce genre qu'il n'y ait pas de dérapage, vraiment de mauvaise perception et que un petit élément négatif ne prenne vraiment le pas sur tout le reste. Donc non, je blacklist pas de journalistes, enfin, c'est vraiment très très rare. Je crois que si le journaliste est honnête, nous on fait en tout cas notre boulot honnêtement. Et bon, c'est clair qu'on veut valoriser ici une région, une vallée, et on veut montrer ça de manière la plus positive possible. Maintenant, bon, on n'est jamais à l'abri d'un incident ou de quelqu'un qui perçoit quelque chose de manière négative. Mais bon, ça c'est le jeu. Maintenant, le blacklistage, oui, c'est quelqu'un. Ça arrive des journalistes qui sont pas totalement professionnels et qui profitent des voyages, peut-être de certains indépendants ou qui n'ont pas fait valider par un rédacteur en chef. Et là, il peut y avoir des problèmes. Donc là, on doit essayer vraiment d'être vigilant à ce niveau-là.
J'imagine qu'il doit y avoir des journalistes moins faciles que d'autres. Est-ce que tu as des exemples à donner? Et puis après ça, peut-être raconter quelques anecdotes, mais peut-être commencer par des journalistes un peu difficiles et comment ils le manifestent.
Mais je crois qu'il y a des journalistes, oui, qui sont plus difficiles. Ça peut être différentes exigences, ou ça peut être aussi certains secteurs aussi où on voit qu'il y a beaucoup d'escalade dans l'accueil et dans le glamour. Je pense notamment au secteur de la beauté ou de la mode pour lequel j'ai déjà travaillé. Et c'est vrai que là, on voit que ce sont des marques de luxe qui invitent et qu'il faut toujours faire mieux que l'autre et que c'est un petit peu vraiment l'escalade, que faut toujours faire plus beau, plus chic, plus extraordinaire. Ce qui fonctionne, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a certaines journalistes dans ce secteur beauté ou mode qui peuvent un petit peu être des divas et d'avoir un comportement comme ça en voyage de presse. Donc c'est une gestion parfois plus compliquée, voilà. Oui, un petit peu des caprices de stars parfois où on doit aller leur chercher des choses, enfin, elle nous demande parfois de faire une course ou d'aller, ou de les aider pour certaines choses, qui sortent normalement du cadre du voyage. Donc, voilà, ça c'est certains éléments plus compliqués. Mais je crois qu'en général, les Belges sont pas très divas, pas très compliqués. Je le vois plus quand je voyage, notamment dans ce secteur de la beauté, mais aussi du tourisme, parce que j'ai travaillé pour Club Med pendant plusieurs années. Et c'est vrai, quand on voit arriver les journalistes françaises de Paris, c'est encore un autre niveau. Donc, on s'en sort bien en Belgique.
Et sinon, tu as des anecdotes à raconter où tu as eu un peu de difficulté, le cœur qui a battu ou bien tu as eu chaud, quoi.
Et ben, y a un voyage qu'on devait faire, par exemple, à l'île Maurice, et c'était une jeune journaliste qui venait. C'était son tout premier voyage de presse, et elle était assez stressée. Elle a oublié son passeport aux toilettes, puis quand on est retourné, il avait disparu. Donc on s'est dit qu'au lieu d'aller à l'île Maurice, notre voyage allait s'arrêter à Paris. Bon, finalement, on l'a retrouvée, mais pendant ce voyage de presse, il y a eu plein de pertes. Il y a eu des passeports oubliés dans le coffre de l'hôtel. Enfin, c'était vraiment assez épique, mais bon, finalement, on en a beaucoup ri et après, c'était un bon souvenir. Mais bon, c'est vrai que sur le moment, ça fait des petites sueurs froides. Mais je dirais l'expérience la plus épique, c'était une journaliste qui devait partir sans moi. En fait, c'était un voyage individuel. Elle devait partir en croisière en Antarctique. Et elle a pas quitté le travail assez tôt. Elle a raté son train pour Paris. Puis de Paris, elle devait prendre un vol qu'elle a raté. Puis finalement, elle a logé à Paris. On lui a trouvé un autre vol. Et donc, j'ai suivi tout son périple pour qu'en fait, elle rejoigne une croisière en Antarctique. Donc, à chaque fois, en devant lui trouver un autre train, un autre avion, elle s'est retrouvée à Buenos Aires. Elle devait changer d'aéroport. Elle était dans un taxi. Elle comprenait rien. Je crois que pendant 48 heures, on n'a pas arrêté de se parler, de s'envoyer des messages pour que finalement elle arrive à temps et prenne ce bateau pour l'Antarctique. Et bon, le commandant était prêt à l'attendre quelques heures, mais bon, ce genre de voyage, on n'attend pas. Et quand c'est un paquebot là, il y avait 400 personnes. Bon, voilà, ça, on peut pas bloquer tout le monde au port pour une personne. Donc là, c'était quand même assez chaud. Mais bon, finalement, tout s'est bien fini et elle est arrivée à temps.
Quelle est la destination qui t'a le plus marqué dans un voyage de presse que tu accompagnais avec des journalistes ?
Eh bien, la destination qui m'a le plus plu et qui était la plus extraordinaire, c'est quand je suis partie en Australie avec quelques journalistes et agents de voyage. Donc moi, j'accompagnais les journalistes qui faisaient partie du voyage. Et mon rôle était aussi de rédiger le blog pour l'agent de voyage qui nous envoyait en voyage de découverte. Et ça m'a vraiment permis de découvrir un continent qui fait rêver et de pouvoir découvrir l'Australie aussi dans des super conditions, parce que c'est toujours le cas dans les voyages de presse. Donc on est super bien accueillis dans des beaux hôtels. Ça nous a permis de découvrir Sydney, de découvrir le Centre Rouge, l'Outback, de voir Ayers Rock. On a fait du dirigeable pour voir le lever du soleil et voir les plaines autour de Ayers Rock, de voir des kangourous. Enfin, c'était vraiment un voyage exceptionnel où on est quand même resté 10 jours puisqu'on partait vraiment très très loin. Mais ça, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et c'est vraiment une grande chance d'avoir pu faire ça dans ma carrière. En même temps, je travaillais aussi un moment pour Club Med. Donc là, ça m'a permis aussi de découvrir des ouvertures de nouveaux villages, de villas, d'aller 2 fois à l'île Maurice, d'aller en Guadeloupe, en Martinique. Donc j'ai quand même eu pas mal de beaux voyages à mon actif. Mais bon, on pense que c'est très régulièrement, mais c'est peut-être 1 à 2 fois par an. Bon, ça dépend un petit peu des clients, de l'activité en ce moment. Donc voilà.
Mais quand on t'entend, ça fait un peu rêver ce métier d'attaché de presse. Est-ce que tu le conseillerais aux jeunes ?
Oui, ça fait rêver, c'est vrai. Maintenant, on n'est pas toujours attaché de presse dans le secteur touristique ou dans des secteurs lifestyle. Il y a aussi d'autres sujets qui sont axés plutôt sur le business, sur l'entreprise, sur les banques, l'assurance. On a chacun un petit peu ses spécialités. Moi, j'adore voyager, donc c'est vrai que pour moi, c'est un atout et que j'aime bouger et que je peux le faire parce que j'ai un support autour de moi, mon mari qui peut prendre le relais quand je m'évade comme ça pendant 10 jours. Donc ça, c'est une grande chance et moi, ça me plaît puisque j'aime voyager et que j'aime aussi organiser le voyage, encadrer les groupes, veiller à ce que l'ambiance soit bonne. Et bon, c'est quelque chose qui me convient bien. Maintenant, Bon, c'est une à deux fois par an dans mon cas. Et la plupart du temps, moi, j'envoie des journalistes sans y aller. Donc, c'est vrai que je connais beaucoup de destinations aussi sur catalogue et par photo et en ayant rédigé des communiqués de presse. Donc ça peut être parfois un peu frustrant. Mais bon, moi, ça me fait quand même rêver quand je peux permettre à quelques journalistes de découvrir l'Antarctique à bord d'un yacht et de découvrir après toutes leurs photos et qui me disent que grâce à moi et aux clients, ils ont pu faire le voyage de leur vie. Ben c'est aussi une satisfaction de voir qu'ils sont contents et qu'après, le client sera aussi satisfait des résultats. Donc ça, c'est vraiment un chouette côté du boulot, c'est clair.
Revenons-y à Val Gardena. Ce n'est pas un voyage individuel, que du contraire, c'est un voyage avec beaucoup de journalistes, des journalistes internationaux. Ça arrive souvent, ça, des voyages comme ça, aussi internationaux, avec autant de nationalités différentes ?
Ça arrive assez souvent, les voyages internationaux, parce que ça permet aux clients d'un petit peu rationaliser son organisation, de regrouper certains pays. Mais c'est vrai que toutes les nationalités ne fonctionnent pas toujours très bien ensemble. Donc ça, il faut quand même aussi réfléchir. Et bon, ça dépend aussi de la personnalité chaque fois des journalistes invités. Là, comme disait la responsable marketing de Val Gardena, par exemple, les Allemands préfèrent des voyages individuels, être libres, n'aiment pas être dans des groupes et ont envie de pouvoir faire une découverte vraiment à leur rythme et sans se sentir imposé de faire quoi que ce soit. Donc ça peut aussi faire partie de la culture du pays, de certains journalistes. Et parfois, il y a aussi certains titres qui ne souhaitent faire que des voyages qui leur sont tout à fait qui sont tout à fait uniques, qui sont à la carte, et d'être sûr de pas avoir un article sur la même destination dans un magazine concurrent, plus ou moins au même moment. Donc il y en a qui sont très 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 sélectifs dans le choix des voyages et qui ne veulent faire que quelque chose qui leur a été vraiment élaboré à la carte pour eux.
Alors ici à Val Gardena, qu'est-ce que tu as découvert avec les journalistes comme atout dans cette vallée et qui serait intéressant à donner à nos auditeurs?
Je crois un des premiers atouts, c'est une destination qui n'est pas connue. Je crois que c'est quelque chose que les Belges et n'importe quel voyageur recherche de plus en plus. C'est de découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas encore, qui sortent un peu des sentiers battus. Donc ça, c'est déjà un atout, surtout pour les francophones en Belgique. Un des atouts, c'est notamment que ce n'est pas si loin. On découvre un autre versant des Alpes côté italien. On découvre une culture italienne mélangée à une culture allemande, donc c'est un petit peu la Dolce Vita du Sud et l'organisation plutôt allemande, donc ça, c'est quelque chose de particulier, ce mix de culture aussi. Ici on est dans la vallée de Val Gardena, la Sella Ronda, donc le massif de la Sella. Tout autour il y a encore une culture ladine qui est très forte, une identité que les gens du cru revendiquent totalement. Ils se sentent ladins avant d'être italiens. Donc ça, c'est aussi une richesse culturelle qui peut être sympa à découvrir. Et puis évidemment, le domaine skiable qui est incroyable. Le Dolomiti Superski qui est un des domaines skiables les plus étendus et qui rivalise vraiment avec des grands domaines français comme les Trois-Vallées, etc. Et il y a aussi la gastronomie italienne, le côté bon accueil, sympathie des locaux. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'atouts à découvrir ici.
On revient deux secondes sur la culture ladine. Ça a été une découverte aussi pour les journalistes. Et puis vous avez, vous avec les organisateurs, tout fait pour que cette culture soit transmise.
Bon, il y avait un programme qui était prédéfini pour ce voyage de presse. Donc vraiment de découverte de domaines, du domaine skiable, vraiment des plus beaux sites dans la montagne, de découvrir des petits restos d'altitude. Et puis finalement, il y a un journaliste qui a montré son intérêt pour cette culture ladine qui ne connaissait pas du tout. Et donc c'est là que la responsable relations publiques marketing de Val Gardena s'est dit, ben voilà, il y a un intérêt. Nous, on est très fiers de notre culture, de notre racine, de nos racines. On enseigne encore le ladin à l'école, c'est notre première langue en famille. Tiens, il y a un Belge qui s'y intéresse, ben je vais faire venir un journaliste ladin qui va un petit peu parler de l'histoire des ladins, d'où vient cette langue, qui la parle, dans quel village. Et il était vraiment passionné et ravi de pouvoir partager un petit peu sa culture et d'expliquer d'où viennent les ladins. Et il était vraiment très, très, très enthousiaste et flatté qu'on s'intéresse à la culture de finalement très peu de personnes, puisque ça touche 35 000 personnes ici dans la vallée.
Good morning, good afternoon and good evening to all the people listening now in Belgium. Bon dia, bon domesdì, buonasera a tutta la gente del Belgio che ascolta giusto su questa trasmissione. We do not say Dolomites, we say Dolomites. Prébel déjà de Dolomites. Please say Dolomites.
Là, on a rebondi sur une demande. On a pu faire plaisir autant aux journalistes qui étaient intéressés par ce sujet qu'aux journalistes ladins qui a pu partager un petit peu de sa culture et vraiment des racines de la région.
C'était L'Avenir Rencontre, un podcast du journal L'Avenir. Le lien du reportage réalisé à l'occasion du voyage de presse à Val Gardena se trouve dans le texte d'introduction à ce podcast.